France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Le budget dédié au sport doit-il être maintenu ou raboté ? Aux athlètes révoltés contre la diminution du budget 2025, le président dit « Vous avez raison ». Rosalie Lafarge analysera cette déclaration. Alors que Donald Trump promet de relever les droits de douane à l'encontre de l'Union européenne et de réduire le soutien militaire des États-Unis, le tandem franco-allemand affiche son entente et plaide pour une Europe unie, forte et souveraine, précision à venir de Louise Baudet. Nous irons au Brésil où des forêts partent en fumée. La superficie végétale brûlée par les incendies a bondi de 79% l'an dernier. Et puis avec Benoît Grossin, nous reviendrons sur les Assises nationales de la mise en scène. Grande consultation menée pour réfléchir à l'avenir du spectacle vivant. Emmanuel Macron revient dans le débat politique national pour ce qui ressemble bien à un coup de pression. Une tribune est parue ce matin sur le site de l'équipe. 425 athlètes olympiques et paralympiques qui contestent la baisse envisagée du budget des sports en 2025. Quelques heures plus tard, le chef de l'État leur répond dans le même journal. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir Aurélie.
Et Emmanuel Macron se range du côté de ses athlètes.
Vous avez raison, répond le président aux signataires de cette tribune. Depuis 2017, j'ai veillé à ce que le budget du sport augmente chaque année. Il faut mettre les moyens pour nos sportifs et pour que l'héritage des Jeux bénéficie à tous, poursuit Emmanuel Macron, sortant de sa réserve quand, trois heures plus tôt, la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, essayait-elle de justifier les coupes.
Chacune des missions de l'État doit faire des efforts, le sport y compris. Nous avons eu une séquence exceptionnelle en 2024 autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, avec des budgets qui avaient été augmentés pour le sport. Il est donc légitime que nous revenions à un étiage plus raisonnable, même si nous avons une ambition sportive qui s'est développée. Le Sénat a fait des travaux, la commission mixte paritaire tranchera.
Le Sénat, qui doit voter solennellement le projet de loi de finances demain, s'est opposé aux derniers 34 millions d'euros de baisse des crédits du sport. D'autres élus sont montés au créneau, des sportifs aussi, on l'a dit, des présidents de fédérations, des associations. Et maintenant donc Emmanuel Macron, de quoi entretenir l'optimisme de la ministre des Sports, Marie Barsac.
Je persiste à croire qu'il existe une voie de passage permettant de concilier exigence et sérieux vis-à-vis de la dette française tout en faisant vivre l'héritage des Jeux de Paris 2024. Cette voie, je l'espère, se dessinera dans le débat parlementaire.
On verra, nuance un conseiller ministériel à Bercy qui rappelle la contrainte, l'objectif de ramener le déficit public à 5,4% du PIB cette année. Le président donne son avis, il en a le droit, admet volontiers ce même conseiller, avant de souligner que sur le budget, c'est à Matignon qu'il revient d'arbitrer.
Et vous le disiez, Rosalie, les sénateurs devront demain voter le projet de loi de finances 2025, mais les débats sont toujours en cours pour savoir où devront être faites les économies. Pour le financement de la protection sociale, il faut trouver 2,5 milliards par an. Après les coupes budgétaires, l'idée de nouvelles taxes fait son chemin. Hier, la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, a émis l'idée de mettre à contribution les retraités qui peuvent se le permettre. Bonsoir Célia Gueutti.
Bonsoir.
Une prise de position personnelle qui a provoqué une levée de boucliers de tout bord.
Oui, s'il y a une cible électorale qu'il ne faut pas toucher, c'est bien les retraités. Numériquement, d'abord, ils sont une part importante de l'électorat. Ils sont 17 millions aujourd'hui et représenteront un quart de la population en 2040. Mais ils sont historiquement aussi une force politique. Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS à Sciences Po.
Peu de politiques osent faire ce type de proposition parce que il y a une expérience qui a été douloureuse pour le président Macron, puisque quand il est arrivé au pouvoir en 2017, dès le mois de juillet, il y a une décision d'augmentation de la CSG qui a touché plus particulièrement les retraités et ils ont protesté massivement. Et donc l'expérience, c'est que si jamais vous augmentez la contribution des retraités, ils ont le temps et l'énergie de se mobiliser pour protester.
Protester et voter en conséquence. Aux dernières législatives, 75% des retraités se sont rendus aux urnes, contre 60% environ pour le reste de la population. Sur le plateau de TF1, Astrid Panosyan-Bouvet a voulu ouvrir un débat, mais a oublié la force de l'électorat qu'elle vise de cette taxe, selon Bruno Palier.
Elle n'a pas eu un raisonnement complètement politique, elle a eu plutôt un raisonnement de redistributif, de justice sociale, et elle a dit s'il faut demander des efforts à ceux qui sont les plus aisés, bah parmi les plus aisés, il y a aussi certains retraités. Pourquoi ne pas leur demander un peu plus d'efforts ? Mais n'avoir que ce raisonnement est limité par le fait qu'il y a des enjeux politiques qui sont très importants.
C'est vrai, par exemple, au Rassemblement national, durant les élections européennes, les retraités ont été de plus en plus nombreux à voter pour le parti. Un tournant dans son électorat, le député RN Laurent Jacobelli a d'ailleurs érigé cette taxe pour les retraités comme une ligne rouge.
Célia Goetti. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi urgence pour Mayotte, un premier texte qui contient surtout des assouplissements aux règles d'urbanisme et quelques mesures sociales pour aider l'archipel à se lancer dans la reconstruction après le passage dévastateur du cyclone Chido. Le texte a été adopté à 446 voix pour et 2 contre issus des rangs insoumis. Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Le parquet de Paris a recadré le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. En pleine crise entre Paris et Alger, Bruno Retailleau a annoncé une nouvelle interpellation en France d'un influenceur algérien. Selon le ministre, cet homme appelait à commettre des actes violents sur le territoire français sur TikTok. Mais peu après, le parquet de Paris a tenu à rappeler deux choses. Seule l'autorité judiciaire est légitime à communiquer sur une affaire judiciaire en cours. Et une personne qui n'est pas jugée est présumée innocente. En l'occurrence, ajoute le parquet, cette fuite est tout à fait prématurée. Ils veulent alerter le gouvernement au sujet de la vague de licenciements qui sévit dans l'industrie et la chimie. Quelques centaines de salariés ont participé à un rassemblement devant le ministère de l'économie à l'appel de la CGT. Le syndicat estime à plus de 300 les plans sociaux en cours qui menaceraient quelques 200 000 emplois. Wafia Kenich était sur place.
L'un des combats les plus importants engagés en 2024. Je veux parler des camarades de Vancorex, les camarades.
Vancorex, Arkema, Michelin, les fonderies de Bretagne, Arcelor, Sanofi, la liste est longue, des milliers d'emplois se jouent en ce moment même. Malgré le souhait de la majorité de réindustrialiser le pays, le compte n'y est pas, selon Sophie Binet.
Nous sommes ici pour forcer le gouvernement et le patronat à sortir du déni et à regarder en face la situation. Il n'y a pas de réindustrialisation. Descendez de vos tours d'ivoire, sortez des éléments de langage de vos communicants. Tous les experts partagent le constat de la CGT. Nous sommes au début d'un tsunami de désindustrialisation.
La nationalisation serait nécessaire, notamment pour Vancorex, en grève depuis 72 jours, selon Séverine Dejoux, élue CGT de l'entreprise.
On produit les éponges de zirconium pour le refroidissement des réacteurs nucléaires en France. On produit le carburant de la fusée Ariane et le carburant des missiles de défense français. Donc c'est des choses dont on a forcément besoin en France. Donc c'est des secteurs sur lesquels nous on pense qu'on devrait avoir une souveraineté. Et c'est pour ça que Vancorex devrait être nationalisé, pas simplement pour sauver les 450 emplois de Vancorex et les emplois induits derrière, mais surtout parce qu'en fait on en a besoin et qu'on ait la souveraineté sur ces productions.
Et la mise à l'arrêt du site chimique fait des victimes. Victime en cascade, Arkema, sous-traitant de Vancorex, a annoncé hier la fermeture de la moitié de son site. Olivier Lecomte, l'un des salariés.
Tout le monde va être impacté, les communes, les commerces, les sous-traitants sur site. C'est une usine qui est centenaire. On aimerait être beaucoup plus soutenu aussi au niveau national. On fait quand même des produits pour l'armement, pour Ariane. On est directement lié aussi avec Framatome, c'est le nucléaire. Tout ça, et on voit que ça a du mal à bouger aussi.
Pourtant, les pouvoirs publics interviennent souvent pour tenter de préserver l'emploi. Mais dans les derniers mois, les discussions engagées avec les directions des sites concernés ont tourné au bras de fer. Élus locaux et nationaux n'ont quasiment jamais obtenu gain de cause.
Les Assises nationales de la mise en scène viennent d'être organisées pour la première fois en France. De Lille à Toulouse, en passant par Strasbourg ou Lyon, 8 villes ont accueilli les rencontres et des ateliers dans le cadre de cette grande consultation visant à faire évoluer les politiques culturelles pour le spectacle vivant. L'opération qui s'est conclue lundi soir à Paris a été lancée en septembre à l'occasion des 80 ans du SNMS, le syndicat national des metteuses et metteurs en scène, créé à la Libération. Bonsoir Benoît Grossin.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
Au total, plus d'un millier de participants ont fait part de leurs souhaits et d'abord de leurs inquiétudes.
C'est ce qu'a constaté à chacun de ses déplacements une des responsables des ateliers, Marie-Pia Bureau, la directrice de l'Office national de diffusion artistique, qui est allée à la rencontre de quelques 600 artistes, metteuses et metteurs en scène, dans un contexte de baisse des crédits pour la culture.
La profession, elle est inquiète à tous les étages de la fusée. C'est à la fois un malaise et un esprit de combativité qui s'exprime. C'est ça la résistance, c'est qu'on a entendu personne dire « bon, bah, si ça rapporte pas, je change de métier ». Non, non, ils sont convaincus du bien fondé de ce qu'ils font, de la nécessité de le faire en fait pour la population. L'engagement des personnes est profond, total, et puis en même temps, il y a une forme d'incompréhension sur le fait qu'ils ont l'impression de bien faire leur travail et que la reconnaissance, et en termes de moyens, mais aussi en termes de visibilité, et de simplement leur dire que ce qu'ils font est juste et bien, ça manque totalement, d'où ce malaise.
Et grâce à ces assises nationales, on apprend que la profession fédère près de 11 000 personnes en France, les femmes étant majoritaires.
56,3% de femmes. Une première approche statistique du métier dévoile aussi des revenus très faibles pour la plupart des metteuses et metteurs en scène, des revenus inférieurs à 6 000 euros par an, mais avec une détermination, notamment du côté des plus jeunes, à s'engager pour une refonte du système du spectacle vivant, selon le directeur des Assises, Stéphane Fievé.
Il y a de toute évidence une appétence des jeunes générations vers des problèmes ou des questions sociétales, avec l'idée que de toute façon on n'a pas le choix, il faut transformer le système, parce que c'est déjà en cours. Je pense évidemment à la question de la transition écologique et de la responsabilité des metteurs en scène à cet endroit, mais aussi par exemple autour des questions d'égalité, de diversité, et puis de rapport à la population, pas uniquement au public, de l'inscription du travail dans un territoire.
L'objectif principal des Assises nationales, Benoît, c'est de remettre l'artiste au centre du jeu.
Et cela en se rapprochant des publics, confirme le président du syndicat des metteuses et metteurs en scène à l'initiative de cette consultation nationale, Cyril Legris.
Il y a une volonté chez les artistes qui a été largement exprimée de retisser des liens avec le public, surtout en milieu rural. Vraiment de la volonté, la nécessité pour eux de pouvoir parler directement avec le public. Si on veut du public dans les salles, il faut qu'on soit au contact avec eux au quotidien. C'est avant tout une réflexion sur les imaginaires qui permettent aussi à la société, non pas simplement de se regarder, mais aussi de se projeter. Et c'est ça qui est essentiel. Sans nouveau récit, l'art est mort. Et ce qu'on a voulu créer, justement, c'est un rapport horizontal. Parce que, en fait, l'intelligence est collective. Parce qu'on peut avoir de très bonnes idées, quelle que soit la manière dont on travaille, qu'on soit dans une petite zone rurale et qu'on fasse un travail très précis en lien avec les publics, qu'on fasse de l'action culturelle. C'est important de pouvoir collectivement réfléchir ensemble parce qu'on en a besoin aujourd'hui et que cette société française est trop morcelée, où chacun se retrouve dans sa petite case. Et que si on veut faire revenir le public dans les salles et voir du spectacle vivant, il n'y a que les artistes qui sont en capacité de le faire. Mais avec des outils adaptés, avec des financements adaptés, avec une politique culturelle qui prenne en compte les spécificités de ce métier pour remettre l'artiste au centre de la politique culturelle.
Et ces assises nationales, Aurélie, vont déboucher sur la mise en œuvre d'une série de chantiers, sur la reconnaissance du métier, sur les questions éthiques et sur les enjeux de formation et aussi de transformation du système du spectacle vivant, avec la volonté pour les metteuses et metteurs en scène d'en être les acteurs.
Merci Benoît Grossin. Les auditeurs trouveront encore plus d'informations sur ces assises nationales de la mise en scène en une du site de France Culture dans la rubrique L'Info culturelle. En Allemagne, déjà choquée par plusieurs attaques au couteau, dont l'attentat de Solingen en août dernier, deux personnes, dont un enfant de 2 ans, ont été tuées à l'arme blanche dans un parc d'Aschaffenburg, en Bavière. Il y a aussi 2 blessés graves. La police a appréhendé un suspect afghan qui souffrirait de troubles psychiques. Le chancelier allemand est à Paris. Olaf Scholz était reçu cet après-midi à l'Élysée et le tandem franco-allemand a affiché son unité. Après la menace de guerre commerciale brandie par Donald Trump, l'Europe cherche une réponse à la hausse des taxes et des droits de douane annoncée par le président américain. Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont fait des déclarations fortes. Louise Baudet, reste à voir si les actes suivront.
Un court instant, Olaf Scholz hésite. Le président Trump, un défi à relever, finit par lâcher le chancelier allemand. L'Europe ne va ni se dérober, ni se cacher, mais être un partenaire constructif et sûr de lui. Olaf Scholz accueilli quelques minutes plus tôt par une chaleureuse poignée de main du président français, qui promet lui aussi une Europe forte, unie et souveraine.
La seule réponse au temps dans lequel nous entrons, c'est plus d'unité, plus d'ambition et d'audace, et plus d'indépendance des Européens.
Unité de vue et alignement franco-allemand au menu, mais s'il parle d'une seule voix, le tandem franco-allemand défend-il la même stratégie? Puissance exportatrice en crise, attachée au parapluie sécuritaire américain, l'Allemagne espère encore s'entendre avec Donald Trump, là où Emmanuel Macron plaide depuis longtemps pour une Europe plus autonome. Du bouclier antimissile européen à la mutualisation de la dette, en passant par les voitures électriques chinoises ou l'accord Mercosur, les divergences franco-allemandes demandes se sont multipliées ces dernières années, sans oublier l'aspect humain. Le courant n'est jamais vraiment passé entre Olaf Scholz, le taiseux et l'omniprésent Emmanuel Macron, tous deux affaiblis politiquement dans leurs pays respectifs. La visite d'Olaf Scholz a d'ailleurs des allures de tournée d'adieu à un mois d'une défaite annoncée aux élections législatives allemandes.
Et Donald Trump met aussi la pression sur la Russie. Il menace Moscou de haut niveau de taxes, de droits de douane et de sanctions. Si un accord n'est pas trouvé maintenant avec l'Ukraine, nous y reviendrons dans le point d'actualité de 19h. La Russie également mise en garde par le Royaume-Uni, mais cette fois pour une toute autre raison. Londres annonce avoir éconduit un navire espion envoyé par la Russie dans la Manche. Et le ministre de la Défense britannique dénonce la menace croissante de Moscou sur les infrastructures offshore dans les mers européennes. Richard Place.
Mon message au président Poutine est clair. Nous savons ce que vous faites et nous n'hésiterons pas à prendre des mesures énergiques pour protéger la Grande-Bretagne. Fermeté du ministre de la Défense. Ce sont ses services qui révèlent aujourd'hui l'étrange balade du Yantar. Ce bateau russe, qualifié d'espion par les autorités britanniques, a été repéré cette semaine dans la Manche. Aussitôt, un navire de guerre de la Royal Navy, le HMS Somerset, est allé à sa rencontre pour le surveiller de près. Le Yantar est une vieille connaissance pour la marine anglaise, puisqu'en novembre déjà, il se trouvait dans la même zone, au-dessus d'infrastructures sous-marines essentielles, explique Londres. Un sous-marin de Sa Majesté était alors venu à la surface pour lui signifier qu'il n'était pas seul. Le navire russe était parti en Méditerranée. Par conséquent, le Royaume-Uni déploie Nordic Warden, un nouveau système de surveillance qui utilise l'intelligence artificielle pour repérer les bâtiments fantômes de la flotte russe.
Richard Place à Londres. On entend toujours des tirs et des explosions à Jénine, en Cisjordanie occupée. L'opération militaire israélienne, présentée comme antiterroriste, se poursuit. Le gouverneur de la ville palestinienne se dit très inquiet. Selon lui, l'armée d'occupation a rasé au bulldozer toutes les routes menant au camp de Jénine et à l'hôpital. Par ailleurs, l'armée israélienne a décidé de renforcer les checkpoints dans toute la Cisjordanie, ce qui entraîne des heures d'attente pour les Palestiniens qui doivent se déplacer. Reportage à Ramallah de Virginie Pironon.
Checkpoint de Beit Hill, à la sortie de la ville. Voitures et camions sont à l'arrêt sur près de 500 mètres. Une heure et demie que Wassim, un chauffeur de 29 ans, essaie d'avancer en vain.
Si j'avais pris une autre route, ça m'aurait pris une heure pour y aller et deux heures de plus pour passer le checkpoint. Alors j'ai choisi celui-là.
L'armée israélienne qui contrôle les routes a installé des points de passage partout et cela dure depuis trois jours, depuis que 90 prisonniers palestiniens ont été libérés dimanche soir en échange des trois otages israéliennes.
Oui, clairement, on voit la différence depuis dimanche dernier et l'accord trouvé avec Israël. Ça devient de plus en plus difficile et de plus en plus compliqué. C'est très dur.
Un peu plus loin, Aïna prend son mal en patience. Elle doit rendre visite à sa mère octogénaire.
Je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Peut-être qu'ils ont peur à cause des dernières libérations. Peut-être qu'ils mettent de l'huile sur le feu pour que les gens réagissent ici. On ne sait pas.
Et alors qu'une colonie juive surplombe la route, Aïna ajoute : on sait qu'ils veulent nous faire partir par tous les moyens, mais nous ne céderons pas à la pression.
Virginie Pironon et Benjamin Thuo à Ramallah. Au Brésil, la superficie végétale brûlée par les incendies a bondi de 79% en 2024. On parle de presque 31 millions d'hectares, c'est plus grand que l'Italie. Alors que le président Lula a fait de la protection de l'environnement l'une de ses priorités et que le pays accueille cette année la COP30 en Amazonie, ce bilan est pour le moins inquiétant, Jean-Mathieu Albertini.
C'est une année atypique, alarmante même. Toutes les régions brésiliennes sont touchées, mais c'est l'Amazonie dont l'écosystème est crucial pour la régulation du climat qui a été la plus affectée et de loin. On y compte presque 18 millions d'hectares ravagés, c'est plus que l'ensemble des surfaces brûlées dans tout le pays en 2023. L'ampleur de ces incendies est liée au réchauffement climatique qui rend la végétation plus sèche, mais ces feux sont quasiment tous provoqués par l'homme. Or, l'Amazonie est particulièrement sensible aux flammes, à l'inverse d'autres écosystèmes, les feux naturels n'existent pas dans cette région et la forêt n'a donc pas évolué pour renaître de ses cendres. Chaque feu la fragilise davantage. Tout cela est une terrible nouvelle pour l'environnement mais aussi pour le président Lula qui souhaitait faire de ses bons résultats dans la lutte contre la déforestation un instrument pour triompher en novembre lors de la COP30 en Amazonie. Même s'il continue de l'espérer grandiose et efficace, il risque aussi de voir sa COP perturbée par Donald Trump et son agenda anti-environnemental.
Jean-Mathieu Albertini à Rio pour France Culture. Il fera généralement gris demain matin avec parfois de la pluie, surtout de l'Alsace au Jura et aux Alpes, mais il y aura de belles éclaircies l'après-midi. De la Bretagne à l'ouest des Hauts-de-France, ce sera le contraire, éclairci le matin avant un temps gris et pluvieux. Les températures minimales iront de 0 à 8 degrés. L'après-midi, il fera de 4 dans le Grand Est à 19 sur la Côte d'Azur.